Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le mag de la vie quotidienne jusqu'à 11h. Et ce matin, en cette période de fête, un sujet qui tombe à pic. Comment retrouver le goût de l'émerveillement dans notre quotidien ? Pas toujours évident de s'émerveiller quand on est accablé par la charge mentale, que les fins de mois débutent le 15, qu'on souffre d'une maladie chronique ou qu'on vient de subir une séparation, une perte d'emploi ou le décès d'un proche. Quoi qu'il en soit, s'émerveiller de son quotidien, ce n'est pas l'édulcorer, mais c'est le voir avec un regard neuf. C'est faire preuve de curiosité, d'esprit d'enfance, mais également de le romantiser, voir le merveilleux dans les choses ordinaires. Et vous, parvenez-vous à faire preuve d'émerveillement, même quand le quotidien n'est pas toujours rose ? Racontez-nous ce qui vous a émerveillé ce week-end, hier ou encore ce matin. Comment transmettez-vous ce goût de l'émerveillement à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces ou encore à vos élèves ? Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à abuser du bouton réagir sur l'appli Radio France, en nous laissant notamment des notes vocales. Pour vous éclairer, deux experts hors pair.
France Inter, le mag de la vie quotidienne, Ali Rebéi.
Et ce matin, deux invités belges pour nous accompagner. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation, directeur de recherche au sein du service des sciences de la famille de l'Université de Mons en Belgique. Et vous publiez chez Racine, Éduquer à l'émerveillement, sous-titré Comment cultiver le goût du merveilleux chez l'enfant et le restaurer chez l'adulte. Bonjour Ilios Kotsou.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles. Et vous publiez chez Robert Laffont, La sagesse des petits riens. Pour commencer, tiens, qu'est-ce qui vous a émerveillé ce matin en venant à la maison de la radio Ilios Kotsou, ça tombe sur vous.
Alors la beauté de Paris, c'est incroyable. Ouais. Paris était très très calme, les illuminations, ces bâtiments, moi je suis jamais blasé de la beauté de cette ville, et puis aussi la bonté, la gentillesse du chauffeur de taxi, là. Voilà.
Alors j'ai dû avoir le même chauffeur de taxi qui était très gentil aussi, mais la beauté de Paris, mais pas du Paris convenu. Mmh. C'est ça l'avantage, c'est qu'on balade dans Paris. Paris est une ville qui est considérée comme la plus décevante du monde parce qu'elle est anticipée par les gens qui se disent « je vais aller voir
la Tour Eiffel,
etc. etc. » Et le Paris convenu est décevant. Par contre, le Paris inattendu est merveilleux. Mmh.
Alors, l'émerveillement, nous dit le Robert, c'est le fait d'être émerveillé. S'émerveiller, c'est éprouver un étonnement agréable, synonyme d'émerveillement, étonnement, enchantement, éblouissement, ravissement. Et vous, quelle est votre définition personnelle de l'émerveillement, Bruno Humbeck ?
Alors, le plaisir étonné d'être au monde, celui avec lequel un enfant vient d'ailleurs au monde. Il y a cette espèce de sentiment d'être vivant, mais ça produit, et c'est pour ça que la notion d'étonnement est importante. On doit être surpris par ce qu'on voit quand on est émerveillé. Il ne s'agit pas d'aller voir quelque chose auquel on s'attend. Ça, ça peut être très beau, ça peut être spectaculaire, ça peut être sublime, mais ce n'est pas nécessairement merveilleux.
Ilios Kotsou ?
Alors pour moi, je citerai François Cheng qui dit c'est la capacité à voir le monde, à continuer à s'étonner et voir les choses comme au matin du monde, comme la première fois.
Pour vous, Bruno Humbeck, l'émerveillement se situe dans le regard qu'on porte sur les choses et non sur les choses elles-mêmes. Et d'ailleurs, une grande partie de notre bonheur dépend de la façon dont nous regardons le monde.
Tout à fait. Alors, il y a un exemple d'ailleurs qui va sans doute se reproduire très très prochainement, c'est le 31 décembre, le feu d'artifice. Quand on voit un million de personnes sur les Champs-Élysées filmant le feu d'artifice. C'est l'anti-émerveillement assuré. Le feu d'artifice n'est pas fait pour qu'on le filme. D'ailleurs, personne ne va regarder le film en rentrant chez lui. C'est fait pour être un spectacle grandiose, sublime, qui rassemble tout le monde autour d'un même émerveillement. Mais il faut surtout le regarder sans le filmer. Toutes les personnes qui le filment se mettent en situation de ne pas s'émerveiller.
Ilios Kotsou.
Oui, parce que l'émerveillement, c'est une expérience. Et une expérience qui demande de l'ouverture et une forme de présence. Et donc, c'est vraiment le faire comme la première fois, si on peut être vraiment là, comme si on le regardait pour une première fois, alors
une forme de présence, c'est-à-dire.
Mais c'est une forme de ça demande vraiment à ce que nous soyons vraiment là. Alors que souvent dans la vie, on anticipe, on est déjà ou alors dans ce qu'on a déjà vécu ou dans ce qu'on voudrait vivre, et on passe à côté de l'expérience comme elle est. Et on le voit d'ailleurs dans nos relations personnelles. On peut vivre avec quelqu'un pendant très 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 longtemps et avoir cette capacité à regarder cette personne avec présence comme la première fois chaque jour.
Alors évidemment l'idée ce matin c'est de ne pas prôner un émerveillement continu du matin au soir, mais c'est de se ménager du temps pour laisser le merveilleux du quotidien nous pénétrer.
Alors c'est particulièrement vrai, l'habituation d'ailleurs le montre, si on est habitué, si on doit revivre tous les jours le meilleur, le plus beau jour de notre vie, il va très vite devenir très fade, parce que la répétition du même crée ce phénomène qu'en psychologie on appelle l'habituation. passion.
Hédonique.
C'est important, de même quand on regarde quelque chose de merveilleux, de s'en extraire un peu et d'y revenir après, parce que si on s'habitue au merveilleux, bah, il finira lui aussi par devenir fade. Et c'est un des problèmes de notre société, où on nous présente souvent le spectaculaire comme étant merveilleux. Il faut absolument aller voir le dernier concert de Beyoncé, il faut absolument aller voir ceci, cela. Et bah, on finit par être saturé, parce qu'il y a une confusion entre le spectaculaire et le merveilleux. Le merveilleux se retrouve beaucoup plus dans l'anodin, dans les petites choses.
Et de ce dessous ? Tout à fait d'accord. C'est pour ça que le merveilleux commence dans l'étonnement. On dit que la philosophie, c'est les premiers penseurs se sont étonnés. Et cette capacité à avoir un esprit disponible, en fait, un esprit frais, un esprit ouvert.
J'ai l'impression que dans notre monde cynique du second degré permanent, affirmer qu'on s'émerveille d'un coucher de soleil, d'une pie qui se balade dans son jardin ou d'un bébé qui sourit, c'est passer pour une cruche.
Ah ben c'est très vrai. C'est tellement vrai que pour pouvoir m'autoriser à écrire ce livre, Éduquer à l'émerveillement, j'ai dû avant écrire un livre sur la violence du monde. Sinon, je serais passé pour un béni oui, pour quelqu'un qui, effectivement, malgré les vicissitudes, et c'est justement parce qu'on l'a entendu, les informations, c'est pas rigolo ce qui se passe pour le moment, et ça cultive l'anxiété. Et c'est justement pour éviter d'être encombré d'une anxiété qui a sa raison d'être. Hein. Il ne faut surtout pas dire « je vais devenir maintenant un émerveillé permanent, une espèce de bisounours », ça ne fonctionnera pas. Je vais accepter que le monde est anxiogène. Il y a des tas de raisons, et ce n'est pas un indice de maladie que d'être anxieux, c'est plutôt le signe de l'intelligence. Mais pour équilibrer les choses, je vais m'autoriser aussi des regards émerveillés sur ce qui reste de merveilleux dans le monde.
Et l'écrivaine Belinda Cannon affirme que la gravité, la tristesse s'affichent plus volontiers parce qu'elle donne l'illusion, cette gravité, cette tristesse, qu'on est plus lucide et donc plus malin.
C'est le problème, effectivement. Autres. Mais c'est aussi vrai des informations. On l'a entendu aux informations. On nous annonce que Georges Clooney devient français. C'est très bien, c'est une petite anecdote. Mais auparavant, on nous a annoncé des tas de choses très difficiles. Et le cerveau est équipé pour d'abord retenir les éléments négatifs, tout simplement parce qu'il doit préparer notre survie. Et donc d'abord voir ce qu'il y a de négatif. Et ce qu'il y a de positif, c'est en plus. Et donc cette espèce d'impression que les gens qui voient le positif seraient des idiots.
Ilios Kotsou ?
Et dans ce sens, Bobin disait que s'émerveiller, c'est résister. Christian Bobin, résister à ce flot de mauvaises nouvelles qui tombent sans arrêt sur nous, résister à la déshumanisation et continuer à cultiver ce regard ouvert et frais qui nous permet de voir et de nourrir de la beauté du monde.
Bonjour Amara, bienvenue.
Bonjour Ali, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, vous appelez de Moselle via WhatsApp.
Oui.
Vous mettez du merveilleux dans votre quotidien, vous essayez en tout cas de le faire tous les jours.
Tout à fait. Donc moi, je m'émerveille pour tout. Mmh. Je m'émerveille déjà le matin en me levant, quand je vois le ciel qui est tout coloré, mmh. qui est tout rouge ou rose. Je prends des photos avant d'aller au travail. Et même parfois, je ralentis la cadence avant de prendre le train. Je m'arrête, je prends le ciel en photo. Mmh. Je m'émerveille aussi si je rencontre sur mon chemin un oiseau, un papillon ou une araignée. Je les prends en photo aussi avant d'arriver au travail. Mais je m'émerveille aussi si je vais me balader en forêt, parce que je fais de la randonnée. Mmh. Et je suis en contact avec la nature, les arbres, les oiseaux, voilà, etc. Je m'émerveille aussi quand je vais toute seule me promener. Je m'installe dans un salon de thé avec mon cahier et mon stylo, parce que j'écris des haïkus. Et j'écris aussi des lettres manuscrites à des amis. Donc, je suis toujours émerveillée. Et puis, quand je vais au bord de l'océan aussi, sur la côte bretonne, je m'émerveille aussi. Donc, j'essaye de mettre de l'émerveillement, effectivement, tous les jours, au quotidien, quand je peux.
Même quand les jours, il y a des jours un peu plus tristes que d'autres, vous y parvenez ?
Tout à fait. Oui, tout à fait. Justement, la saison, cette saison-là, je suis pas du tout joyeuse en fin d'année, mais j'essaye quand même chaque jour de mettre des petits bonheurs, on va dire, pour essayer de rendre un peu la journée ensoleillée. Et même regarder mes plantes pousser, par exemple, je les arrose et je les regarde et j'attends en fait. De voir une fleur pousser. Donc, c'est un plaisir.
Voilà. Amara, vous avez toujours eu cette disposition d'esprit ?
Oui, alors je fais un travail sur moi quand même depuis des années. Je lis beaucoup de livres de développement personnel, mais c'est aussi dans ma nature et ma personnalité, mais depuis toujours en fait. J'ai toujours été résiliente et je prends la vie comme elle est. Et je m'adapte. Alors effectivement, je sais que la vie n'est pas facile, surtout en ce moment avec l'actualité. Mais j'ai pas envie de me laisser déborder en fait par les informations toxiques. Donc j'essaie de faire au mieux. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a du soleil. Là, je vais sortir et je vais aller prendre le ciel parce que j'ai vu que le soleil brillait. Donc, je vais aller me promener.
Et votre entourage, et comment observer. Voit-il cet émerveillement quasi permanent ?
Eh bien, justement, que ce soit mes amis ou mes collègues de travail, parce que même mes collègues de travail sont subjugués. Et c'est moi, d'ailleurs, qui apporte toute cette joie au travail, puisque je mets en place plein d'activités ludiques au sein du travail pour avoir justement cette joie au quotidien. Donc, je mets en place des ateliers d'écriture, parce qu'en fait, j'anime des ateliers d'écriture aussi dans les EHPAD et les écoles. Donc, j'apporte ce positif, en fait, aux personnes, à des personnes âgées ou à des enfants. Et j'anime des ateliers aussi au travail, donc avec mes collègues et dans des bars avec des personnes. Donc, j'apporte, en fait, cette joie, cette positivité, en fait, au quotidien autour de moi.
Bruno Humbeck.
Alors, c'est un très beau témoignage, parce que la formule magique, en fait, de l'émerveillement, c'est pas la joie continue. Et on l'entend, il y a des moments où ça va moins bien, et d'ailleurs, c'est une période un peu moins bonne. Mais il y a la formule magique qui est l'idée de ralentir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'émerveiller en vitesse, de manière précipitée. Il faut prendre le temps. On l'entend, hein, une randonnée, aller regarder pousser une fleur, évidemment, ce sont des façons, peut-être même parfois un peu artificielles, hein, de se donner le temps. L'illusion qu'on a dans notre société, c'est qu'on n'a pas le temps. Et c'est finalement le temps qui nous a, parce que le temps nous prend, on est constamment pris par le temps, et donc on ne prend pas le temps de s'émerveiller. La catastrophe, c'est par exemple d'aller en autocar, de descendre, de faire la photo de quelque chose, de remonter dans l'autocar et puis de repartir. Là, on a garanti qu'on va voir quelque chose, qui ne va pas nous émerveiller, alors même que regarder une fleur pousser, attendre. L'exemple typique, c'est l'affût. Si vous allez à l'affût avec un enfant, à l'affût d'un animal, il ne verra peut-être pas l'animal. Il va voir la trace de l'animal, il va voir quelque chose peut-être furtivement, mais il en aura un souvenir indélébile. Si vous allez dans un zoo, il aura la certitude de voir des animaux, il aura juste passé un bon moment, il sera content.
Ilios Kotsou.
Alors, notre auditrice fait remarquer que Dacher Keltner, le grand spécialiste de l'émerveillement aux États-Unis, appelle une marche de l'émerveillement. Ralentir, regarder les choses avec attention, et elle présente aussi une caractéristique très intéressante des gens émerveillés, c'est que leur soi est plus petit. C'est-à-dire ce qu'on appelle un small self. Ces personnes-là, en général, sont émerveillées, mais mettent l'émerveillement au service des autres. Elle le raconte très bien. La meilleure manière de continuer à s'émerveiller, c'est partager l'émerveillement autour de soi.
Merci beaucoup, Amara, de nous avoir appelé. Nous accueillons Alizé. Bonjour, Alizé.
Oui, bonjour, Ali. Bonjour,
bonjour, bienvenue dans le Mag de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous émerveille, vous ou votre petite fille de 4 ans ?
Alors, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment, mais c'est vraiment l'émerveillement face à la nature. Et en l'occurrence, on a vécu quelque chose que beaucoup de gens ont dû vivre dans la nuit de Noël du 24 au 25. On était à la campagne pour fêter Noël en famille et la neige est tombée durant la nuit. Et ça faisait des années que je n'avais pas vu de neige. Ma fille n'en avait encore jamais vu. Et il y a vraiment eu cette magie de Noël où au matin, au réveil, tout était blanc. Le soleil était en train de se lever, le ciel était rose-orangé, la neige blanche, bleutée. Et c'était un moment magique et on est parti dans le jardin et on est resté pendant une heure, deux heures juste à... vivre ce moment d'émerveillement de la magie de Noël. C'était vraiment extraordinaire.
Et je vous rejoins parce que j'ai également vu cette neige tomber vers 23h45 le soir du réveillon. Et c'est vrai qu'on s'est tous émerveillés de cela. Bruno Humbeck.
Alors c'est vrai et ça prouve bien que c'est une question de regard. Parce que si il se met à tomber de la neige, et je me dis merde, j'ai une route à faire. La route va être glissante, ça va être chiant. Et puis la neige, c'est froid. On peut très bien envisager la même expérience, mais de manière complètement négative. Donc c'est le regard, et il y a un petit mot qui a d'ailleurs été lancé dans le témoignage, la magie. Le regard qui devient magique, c'est le principe même de la poésie. On peut faire de la poésie à partir d'un cendrier, si on le décrit d'une manière telle qu'il devient poétique. René Char a fait ça toute sa vie, hein. Il a transformé les objets en objets poétiques, parce que c'est le regard qui contient l'émerveillement, c'est pas le spectacle en lui-même qui est merveilleux.
Notre auditrice parlait de sa petite fille, l'émerveillement est à la portée de toutes et tous, c'est parce que on est né émerveillé.
Alors, il est même...
dès qu'on est un nourrisson, on est émerveillé.
Il est même probable que ça ait un avantage évolutif.
Tout enfant est enchanté d'être au monde.
Bien sûr. Au début, l'enfant, il est programmé pour vivre au monde, pour être étonné d'être au monde et pour être heureux d'être au monde. Et puis après, ça va s'éroder pendant l'adolescence et parfois même gravement pendant l'âge adulte, à cause de la désillusion, à cause du désolement, à cause du regard désenchanté qu'on porte sur les choses. Mais a priori, ce qui donne à l'enfant l'envie de grandir, c'est ce potentiel d'émerveillement. Et c'est pour ça que, a priori, l'enfant s'émerveille très facilement. Une petite lumière, n'importe quoi va être porteur d'émerveillement.
Nous sommes biologiquement équipés pour nous ouvrir au merveilleux. Ilios Kotsou ?
Oui, c'est en ça ce qu'on appelle l'esprit d'enfance. On peut toutes le retrouver, s'émerveiller quelque part. C'est
votre petite fille qui est très présente dans votre livre, La sagesse des petits riens.
Oui, c'est mon maître d'émerveillement. On pourrait dire que s'émerveiller, oui, ça peut nous permettre de sauver le monde en l'appréciant, mais surtout, ça permet de sauver la petite part d'enfance qui nous reste. Et pour ça, il nous faut accepter peut-être de ne pas savoir, savoir un petit peu moins. Quand on est plein de certitudes et plein de certitudes, il n'y a pas de place pour l'émerveillement. On pourrait dire qu'il y a deux grandes attitudes. Celle qui consiste tout le temps à toujours nommer, s'agripper, croire qu'on sait tout, et celle qui est d'être davantage réceptive. Et c'est là que naît l'émerveillement.
Alizé, bonheur de regarder, de voir votre petite fille émerveillée, j'imagine.
Ben oui, parce qu'en plus, on lui lit souvent des livres autour de Noël, avec la neige, etc. Et puis bon, il neige plus beaucoup. Et là, c'était un peu lui offrir le... Ben si, en fait, il peut y avoir de la neige à Noël, et c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment merveilleux.
Il y avait un beau film il y a quelques années, Y aura-t-il de la neige à Noël, de Sandrine Wessé, dans mon souvenir. Merci beaucoup, Alizé, de nous avoir rappelé. Continuez à nous raconter ce qui vous émerveille au quotidien. Comment transmettez-vous ce goût de l'émerveillement à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, mais également à vos élèves, si vous êtes prof? Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000, sans oublier le bouton réagir sur l'appli Radio France. Vous pouvez nous laisser des notes vocales. En attendant, on écoute Anne Germain qui chante la recette pour un cake d'amour dans le film Peau d'âne de Jacques Demy, sorti en 1970, 10h22 sur Inter.
Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre sucre parsemé et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de
Anne Germain interprétait la recette pour un cake d'amour, extrait de la bande originale du film Peau d'âne de Jacques Demy.
France Inter, le mag de la vie quotidienne.
Romantiser sa vie, c'est juste d'apporter un peu de poésie dans son quotidien. En fait, on va accentuer la beauté des choses et ça ne veut pas dire qu'on va trouver de la beauté là où il n'y en a vraiment pas ou fermer les yeux sur les choses vraiment tristes, etc. De profiter des petites choses, en fait. Par exemple, comme quand on s'achète des fleurs. Alors, on s'achète quasiment jamais de fleurs à soi-même. Vous sortez faire une petite balade, vous tombez sur un fleuriste trop mignon et tout. Vous allez acheter votre bouquet de fleurs, vous allez être trop content de rentrer à la maison, de l'installer dans un vase et de le remplir d'eau. Franchement, ça égaye vraiment des journées simples, par une action hyper simple.
Le créateur de contenu Super Lumos en 2022 dans son podcast, Bruno Humbeck.
Alors, c'est très vrai.
Vous êtes psychopédagogue.
C'est pour ça qu'il ne faut, pas être naïf par rapport à l'émerveillement. Il y a des endroits dans lesquels l'émerveillement est difficile, très difficile. Si votre ville est bombardée, c'est difficile de s'émerveiller, mais il y a toujours des poches d'émerveillement. Et on a toujours d'ailleurs des récits de personnes, notamment des enfants, qui trouvent ces poches d'émerveillement. Ça peut être un livre, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de la nature pour le moment, mais la littérature est une façon de nous ouvrir de manière permanente la porte de l'émerveillement, notamment la porte de l'enfance. C'est pas un hasard si des romanciers comme Tolkien, comme Jules Verne, comme J.K. Rowling sont des maîtres d'émerveillement parce qu'ils ont maintenu ouvert cette porte vers l'enfance dans laquelle tout est possible. Et donc il y a toujours des petites poches d'émerveillement, mais il faut pas être naïf et s'imaginer que on vit dans un monde dans lequel l'émerveillement est disponible de la même façon pour tout le monde. Et je dirais même que lorsqu'il est difficilement disponible, une fois qu'on l'attrape, alors il est salutaire. Il devient même plus bénéfique, il devient quasiment salutaire. Et là, ces petites poches d'émerveillement, c'est ce qui crée la poésie du monde. Et on a vu des poètes à Gaza, et on a vu des poètes en Syrie, et leurs poèmes sont absolument merveilleux à lire, parce qu'on constate effectivement qu'ils ont été chercher ces petites poches d'émerveillement.
Ignace Kotsou, certains ont du mal à s'émerveiller dans leur quotidien, d'abord parce que leur quotidien est très difficile, et puis il est difficile d'oublier certaines douleurs et horreurs du monde.
Oui, c'est très juste. Et à côté de la beauté de la nature, un des grands points d'émerveillement dans la recherche scientifique, c'est ce qu'on appelle la beauté morale. Mmh. Et là, c'est vraiment pertinent de se dire que, où que l'on soit, dans les endroits les plus terribles, c'est aussi là qu'on voit les gestes les plus beaux. Et reconnaître la beauté du geste de quelqu'un nous fait vraiment du bien. Et je pense qu'on peut le trouver dans l'histoire aussi. Hein. On peut penser à Jean Valjean, et Jean Valjean qui va se dénoncer lui-même pour sauver la vie d'un innocent. Mmh. On peut penser à Helen Keller et Anne Sullivan, et tous ces exemples nous montrent dans le cœur de l'horreur et de la difficulté se lèvent des personnes qui ne montrent pas leur caractère, que la beauté est toujours là.
Et que dire à ceux qui vivent des moments très difficiles dans leur vie, Bruno Humbeck, et je le disais, les douleurs et les horreurs du monde qui empêchent, qui font écran à la capacité d'émerveillement.
Je pense qu'effectivement cette capacité reste disponible. On le voit dans une expérience tout à fait simple, c'est de mettre un hôpital avec des arbres à la fenêtre, ou pas d'arbres du tout. Et on constate que les personnes guérissent un peu plus facilement lorsqu'il y a des arbres. Ça ne veut pas dire qu'on va se guérir en regardant des arbres, mais on va effectivement mobiliser son envie de vivre. Et donc aller chercher tout ce qui peut mobiliser le plaisir d'être au monde et l'envie de rester au monde. Je pense que ça, c'est important. Ça veut dire aussi que quand le monde, effectivement, autour de nous est pourri, quand on vit une situation vraiment impossible à vivre, il nous reste, et heureusement, la littérature. Dostoïevski disait « la beauté sauvera le monde », c'est ça qu'il voulait dire. Ça veut dire que ça ne sauve pas le monde dans son ensemble, mais ça peut sauver le monde de chacun quand, par exemple, au milieu d'un capharnaüm épouvantable, on lit un livre qui nous emporte ailleurs. Ailleurs, c'est quelque chose, effectivement, dans lequel le merveilleux est toujours disponible. Et donc, il ne faut pas faire, par exemple, de la nature le réceptacle exclusif de l'émerveillement. Il y a aussi toutes les productions de l'imaginaire humain qui sont des ouvertures à l'émerveillement.
Même quand on vit un moment difficile dans sa vie, on peut essayer de mettre de la magie dans son quotidien. Et moi, j'aime l'idée que les rituels contribuent à notre émerveillement.
Le retour du même, mais d'un même avec lequel on prend un rendez-vous positif. La routine a mauvaise réputation. Or, la routine, elle est indispensable pour notre cerveau. On en a heureusement tout plein autour de nous et on vit avec, et ça nous permet effectivement d'avoir un cerveau qui se repose de temps en temps. Mais il y a aussi une autre routine, qui est le rituel d'émerveillement. Un petit rendez-vous qu'on se donne tous les jours. Je vais prendre un petit exemple personnel. Tous les jours, je m'arrête 3 minutes. Et je m'oblige à m'arrêter 3 minutes devant un paysage que vous allez sans doute tous trouver anodin. Moi, je le trouve merveilleux et je m'arrête obligatoirement 3 minutes au point que les gens parfois me regardent en disant « mais qu'est-ce qu'il fait ?» En fait, je regarde ce petit paysage qui, pour moi, a une valeur significative et c'est mon petit rituel quotidien d'émerveillement.
Et pour l'écrivaine Belinda Cannon, l'émerveillement est compatible avec la répétition. Je la cite dans un entretien à la revue Interrogation. « Tu vois l'infiniment petit, le changement minuscule qui t'enchante et qu'un regard trop pressé t'aurait fait effet manqué. Ce nouveau coucher de soleil n'est-il pas plus rose qu'hier? Et ces nuages en suspens, ce vol d'oiseaux, ils sont pareils, mais ton attention te permet de les voir, de voir les différences avec hier, Ilios Kotsou.
Oui, donc c'est une question d'attention, une forme d'attention ouverte. Donc ça nous demande d'être en même temps tout à fait là et en même temps complètement ouvert et disponible à ce qui se passe.
Et nous accueillons Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors, quels sont vos moyens de vous émerveiller au quotidien?
Alors déjà, je ne vais pas m'étendre sur la question, parce que je sais que mon temps d'antenne va être très court. C'est que j'ai appris assez récemment à réguler mes émotions, ne pas les refuser. Les émotions primaires, hein, quand je parle de ça, c'est la joie, la peur, la tristesse, voilà quoi. Donc de les accepter, de pas forcément les évacuer immédiatement. Voilà, ça c'est la première chose. Et après, je me suis... Alors ça, c'est un conseil assez simple que je conseille à tout le monde. C'est de s'accorder quelques petits plaisirs par jour. Voilà.
Alors c'est lesquels pour vous, Patrick?
Alors, bon, j'ai établi une to-do list. Hein. Alors, il y en a qui ne sont pas vraiment réalisables immédiatement. Mais par contre, je vais en citer quelques-uns. Alors, il y en a qui semblent un peu farfelus. Mais par exemple, c'est toucher du bois. Voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Quoi. Voilà, toucher du bois. Ça peut être effectivement également, je sais pas moi... Bah, je suis jardinier, donc contempler, toucher, sentir une plante. Alors, c'est pas trop la saison actuellement. Enfin, quoi que, on peut trouver. Là, c'est pas trop non plus la période. C'est entendre le bruit d'une cour de récréation. J'adore.
Ah oui, bah, ça va être local la semaine prochaine. Patrick, vous allez pouvoir retrouver ce plaisir-là. En tout cas, merci de nous avoir appelé, Patrick. Et nous accueillons Christine. Bonjour, Christine.
Bonjour Ali, bonjour messieurs.
Bienvenue dans le Mag la vie quotidienne. D'où appelez-vous, Christine?
J'appelle de la Sarthe.
Très bien. Alors, partagez avec nous votre goût de l'émerveillement.
Eh bien, en fait, moi, c'est ce que je racontais tout à l'heure à la personne qui m'a pris au standard. J'ai été placée, enfin, on m'a demandé on m'a reconnue en invalidité en 2017 avec des soucis de santé. Et en fait, je rejoins ce que disaient les professeurs, c'est-à-dire qu'en fait, je suis tombée au plus bas au niveau moral. J'avais ma famille, mais bon, voilà, un manque d'activité, un rituel d'aller travailler n'étant plus, je me trouvais j'avais l'impression de ne plus avoir d'importance, d'existence. Et en fait, j'ai pris l'habitude de m'asseoir sur ma terrasse dès que je le pouvais et de regarder la nature, de prendre le temps de contempler, chose que je ne faisais plus en allant travailler. Et je me suis reconnectée à la nature. Et en fait, ça m'a fait un bien fou et j'ai eu l'impression que ça avait une action sur ma santé. Alors pas physique parce que forcément, mais au moins déjà mentale. Et en plus, donc j'ai la chance d'habiter en campagne. Et donc maintenant, je me suis mis un rituel et ce qui me permet tous les jours de pouvoir le faire, c'est que je mets des graines aux oiseaux régulièrement. Et donc, ce qui me permet tous les jours de regarder les oiseaux venir manger et de regarder lesquels viennent manger et de connaître maintenant les espèces d'oiseaux.
Et là, Ilios Kotsou, c'est très intéressant le témoignage de Christine. On voit encore une fois que l'attention, parce qu'elle fait preuve d'attention, Christine, que l'attention, c'est l'une des conditions fondamentales de l'émerveillement. Et je vous cite dans votre livre, « Nous avons cette étrange capacité à marcher sans regarder, à entendre sans écouter, à frôler le vivant sans le toucher vraiment. » Et ça fait écho à ce que vient de nous dire Christine.
Oui, cette attention, cette présence au travers des cinq sens dont nous parle Christine. Et puis ce qui est intéressant aussi avec la nature, c'est que la nature lui rappelle et nous rappelle qu'on n'est ni le centre du monde, ni étranger au monde, mais qu'on est une partie du monde. Quand on est vraiment présente et attentive et qu'on sent les choses, alors on refait partie du monde et l'émerveillement peut à nouveau surgir.
Bruno Humbeck.
Le témoignage de Patrick était aussi très évocateur, hein, du retour des sensations, des émotions, c'est-à-dire être de nouveau reconnecté par les sensations, hein, sentir du bois, écouter le chant des oiseaux. J'étais à la gare du Nord ce matin, c'est plus la musique.
Les armées de Belgique, hein, je précise.
Ce sont des chants d'oiseaux, et alors ils ont bien compris effectivement qu'un chant d'oiseau unique était casse-pied au possible. Hein, si vous écoutez un merle à longueur de temps, il va vous casser les pieds. Par contre, l'aube chantante, c'est-à-dire il y a quatre chants d'oiseaux qui s'accumulent, ça produit un effet immédiat sur les personnes, parce parce que une gare, c'est l'endroit où on retrouve les gens les plus stressés. La reconnexion avec ses sensations, puis, comme le disait très bien Patrick, avec ses émotions qu'on accepte, c'est pour ça que je me suis toujours agacé quand j'entends le mot hypersensible, perçu comme une maladie. C'est la société qui est malade. Si elle considère que les hypersensibles le sont, l'hypersensibilité, c'est juste une réception particulière aux émotions et sensations qui vont nous permettre de cultiver l'aptitude à s'émerveiller.
Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Bruno Humbeck, s'émerveiller, c'est donc être attentif à ce qui nous entoure. C'est aussi poser un regard neuf sur ce que l'on croit déjà connaître afin de redécouvrir ce qui est là, juste sous nos yeux.
C'est-à-dire ne pas se forcer à comprendre. Et on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la simplicité. La simplicité, ça ne veut pas dire effectivement qu'on dit « mais le monde est simple ». C'est pas être simple d'esprit, mais revenir à des formes d'épure, à des choses qui sont simples. Finalement, on est heureux quand on décide d'être heureux aussi, parce qu'on décide de recevoir tout ce qui peut nourrir ce bonheur. C'est le principe de l'être humain qui va toujours faire grossir ce qu'il nourrit. Si je nourris mon appétence au bonheur, ce bonheur va effectivement se manifester plus probablement. Et donc il faut être réceptif. On ne décide pas par choix d'être heureux. Ça, ce serait terriblement cruel de dire ça pour les gens qui vivent des situations difficiles. Mais on peut faire le choix d'être heureux malgré tout. C'est-à-dire prendre l'option du bonheur en allant chercher, comme l'expliquait très très bien l'auditrice tout à l'heure, en allant chercher ce petit temps qu'on va se réserver à soi. Les Japonais ont... C'est pas une société idéale, le Japon, il faut être très clair avec ça. Mais parce qu'ils doivent résister à une pression temporaire qui est énorme, temporelle énorme, ils ont inventé l'ikigai, ce petit temps à soi.
L'ikigai.
L'ikigai.
C'est quoi ?
Alors, c'est une bonne raison de se lever. C'est pas une raison de vivre. C'est-à-dire, eux, ils disent pendant de telle heure à telle heure, je vais faire ça. J'aime lire, bien, je lirai. Et ils ont une faculté. Alors, pour vous dire la vérité, ma belle-sœur est japonaise. J'ai découvert l'ikigai en voyant son agenda. Gymnastique de 10h04 à 11h02. Je me dis, moi, quelle névrosée. Et comme toujours, quand on a des idées préconçues, on doit aller un peu plus loin. Et elle m'explique, elle dit, nous, c'est la première chose qu'on met dans notre agenda. On met l'ikigai, et ils ont un très très beau proverbe qui dit, même un rendez-vous avec l'empereur ne bousculera pas l'ikigai. Nous, si on aime faire du sport, on doit chercher les enfants à l'école, on dit, tant pis, je fais pas de sport aujourd'hui, je dois aller demain, je vais laisser tomber. On va laisser tomber ce qui nous donne une bonne raison de se lever. Le Japonais qui se lève et qui a mis dans son ikigai un moment protégé, il se dit, je me lève et heureusement, à ce moment-là, je vais pouvoir faire ça.
Beaucoup, beaucoup de messages autour de l'émerveillement de la nature. Paulette de Nantes qui nous écrit « J'ai toujours cette faculté de m'émerveiller. J'habite Nantes et je vais souvent marcher sur les rives de la Loire qui est changeante selon le temps. L'eau est bleue sous le soleil, noire sans soleil, moutonneuse sous le vent, avec ou sans mouette. Bref, je ne me lasse pas de ce beau spectacle de la nature. » Mylène qui nous écrit « Je viens à l'instant de voir un écureuil passer de branche en branche. Vivant la campagne, j'ai toujours sensibilisé mes filles à apprécier la nature qui nous entoure, couleur du ciel, étoiles, faune, flore, chou ramanesco, mais aussi l'architecture, qu'elle soit toute simple ou plus travaillée, la musique aussi, il y a tant de choses qui peuvent nous émerveiller pour échapper à l'actualité. » Et nous accueillons Richard. Bonjour Richard Pierre. C'est bien ça, Richard Pierre.
Oui, oui,
c'est votre prénom.
Bonjour Ali et tous vos invités. Merci de prendre mon appel.
Vous appelez de Vendée.
De Vendée, ouais. Exactement. Les Lucs sur Boulogne.
Très bien. Alors
Votre sujet me touche au plus haut point, dans ce monde un peu fou. Et moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, les animaux, la nature et notamment les oiseaux. Mmh. Et donc, j'ai une espèce d'addiction aux oiseaux. Je suis ornithologue amateur. Je suis très engagé à la Ligue de protection des oiseaux pour transmettre, pour connaître, pour observer, pour compter. Et chaque matin, j'habite à la campagne, dans un village, je nourris les oiseaux. Là, ils sont devant moi à la mangeoire avec du tournesol. Et c'est un balai permanent, c'est un moment de plaisir, de bien-être, d'admiration, de transcendance. Et si dans la semaine, je ne vais pas sortir pour voir pour faire 2-3 balades dans la nature avec mes jumelles, je suis pas très bien. Donc donc c'est à la fois les oiseaux et puis les espaces, les arbres, le vent, les haies, la mare, c'est c'est merveilleux, ça nourrit, ça apaise et ça permet de repartir. Dans la vraie vie, si je puis dire.
Vous m'émerveillez, Richard Pierre. Votre récit m'émerveille. Ah, oui. Alors, c'est vrai, ouais. Restez avec nous, Richard Pierre, quand on a la chance de contempler un paysage naturel, Bruno Humbeck, ce sont des vitamines du bonheur. Quand on contemple un paysage, c'est un regard qui, et je vous cite, absorbe, engloutit et donne envie de se fondre dans ce que l'on voit parce qu'on se sait en faire partie. Je suis sûr que vous ressentez ça, Richard Pierre.
Complètement, ça fait partie intégrante de ma personnalité, de ma vie quotidienne. Et ce sont des choses que je transmets aussi à mes petits-enfants. Je pars avec ma longue vue. Il n'y a pas longtemps, j'attirais l'attention de mon petit-fils Sacha sur le fait de se tenir à la frontière, de se tenir à la lisière. C'est une belle métaphore. Et en posant ma longue vue, il y avait là, à 300 mètres, un couple de chevreuils qui se reposait. Et là, il était absolument émerveillé. C'est pas dans les livres, c'était là, ce rapport au sauvage, cet instant suspendu.
Bon, Richard Pierre, je vais venir vous voir en Vendée. Hein. Attendez-vous à ce que je débarque par chez vous.
Alors, je Bruno Humbeck. Il joue magnifiquement son rôle de grand-père. C'est ça, un grand-père, c'est quelqu'un qui éveille à la vie. Alors, on pourrait être tenté de penser en entendant tous ces témoignages, mais tous ces gens sont déconnectés par rapport à la connexion aux écrans, par exemple. Et ils ont juste remis l'écran à sa juste place. Il y a une application super qui s'appelle Merlin, qui permet de repérer le chant des oiseaux, d'identifier les oiseaux. Franchement, c'est pas du tout antinomique avec l'émerveillement. On a simplement une aube chantante et on se dit, tiens, qui participe à cette aube chantante? Et puis on va amener notamment nos enfants et nos petits-enfants. Et sur ce plan-là, il y a un livre que moi je conseille en permanence, c'est le livre de Thomas Schlesser, Les yeux de Mona.
Ah, Les yeux de Mona, qui vient de sortir en poche. Et qui est un très bon
livre. Extraordinaire. Je pense que tous les pédagogues doivent le lire parce qu'il montre exactement comment on produit des sensations d'émerveillement dans un musée. Quand je vois des petits-enfants regroupés autour d'un adulte qui explique comment on va, je me dis les pauvres, le pauvre adulte et pauvres enfants. Les enfants font tout à fait autre chose. On leur impose une œuvre. Il ne faut surtout pas s'imposer l'émerveillement. L'anti-émerveillement, c'est un paquet de personnes devant la Joconde qui est en train de faire une petite photo alors qu'il y a des tas
avec
de reproductions. Voilà, ça n'a aucun sens. Allez plutôt voir le petit Raphaël qui est à côté. Tout petit, mais à personne, vous serez tranquille, tout seul, dans le silence, qui sont les conditions de l'émerveillement. Là, Thomas Schlesser, il explique très bien comment il fait avec sa petite fille pour lui constituer un musée intérieur. Va regarder. Tu regardes pendant 10 minutes. Je ne te dis rien. On se tait. C'est le silence qui crée l'émerveillement. Après seulement, je t'expliquerai ce que je sais de cette peinture. Là, on est dans la pédagogie de l'émerveillement.
Les yeux de Mona de Thomas Schlesser qui vient de sortir en poche. Merci beaucoup, Richard Pierre, pour votre témoignage. Alors, pour s'émerveiller, Bruno Humbeck, il suffit parfois de regarder par la fenêtre. Pour vous, la fenêtre, c'est un lieu magique qui offre au paysage un cadre dans lequel celui-ci peut prendre la forme d'une œuvre peinte.
Alors, à la condition que vous utilisiez...
Et c'est pas forcément un paysage naturel.
Bien sûr, c'est quelque chose que vous allez vous donner le temps de décrire. Et il faut bien expliquer que la méthodologie de l'émerveillement, parce qu'il y en a une, c'est prendre son temps, imprimer par tous ses sens, ne pas juger, ne pas évaluer, mais juste regarder et puis raconter. Plutôt que de prendre la photo du feu d'artifice, si les personnes pouvaient simplement dire, je vais profiter avec tous mes sens du feu d'artifice, et puis je vais le raconter, ou tenter de le raconter à quelqu'un, c'est comme ça qu'on produit des souvenirs, parce que le cerveau ne se souvient que de ce dont il a fait un récit. Et donc, plutôt que d'enrichir la mémoire d'un appareil, enrichissons nos propres mémoires de souvenirs, et pour ça, il faut prendre le temps de le faire.
Ilios Kotsou, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie.
Mais j'étais emporté par l'explication de Bruno, que je trouvais très belle. Ce que Bruno nous raconte, ce que racontent toutes les auditrices et auditeurs, c'est que, au fond, l'émerveillement, c'est rentrer en relation. Réenchanter le monde, c'est cesser de voir le monde comme des choses, mais d'entrer en relation avec elle. Pierre-Richard, là, nous racontait comment...
Richard-Pierre, pardon.
Nous racontait comment chaque oiseau, chaque élément de l'environnement est un vivant, une vivante avec laquelle il rentre en relation. Et c'est vraiment ça, réenchanter les choses. Rentrer en relation avec une œuvre d'art, rentrer en relation avec une autre personne. Et pour ça, comme le dit très justement Bruno, il nous faut suspendre le jugement. Dans la Grèce antique, c'est ce qu'on racontait, non, les sceptiques nous disaient « suspend le jugement », la suspension du jugement se dit en grec « l'époké » et « suspend ton jugement », c'est « épéko ». Et moi, c'est vraiment un mantra qui m'aide beaucoup lorsque ma tête se met à juger, à catégoriser, je me dis « Ilios et Pecco, suspends ton jugement et laisse-toi toucher par la beauté du monde.
Bourdonbec.
Mais c'est effectivement le même principe, c'est pour ça que si vous vous émerveillez de quelque chose et que vous avez à côté de vous quelqu'un de blasé qui vous dit « mais comment tu peux t'émerveiller ?» Fuyez-le, c'est un emmerdeur. Il y en a des gens comme ça, et c'est malheureusement une des caractéristiques, je vais dire, de notre vie sociale, c'est que ceux qui s'émerveillent sont parfois disqualifiés par les autres, qui prétendent comprendre. Jules Verne n'a pas été par hasard un maître de l'émerveillement, il l'a été parce qu'il était au moment où le monde scientifique était balbutiant. Il avançait vers des mondes à découvrir, mais il n'a jamais prétendu éteindre l'explication. Pour moi, le maître absolu de l'émerveillement, c'est Hubert Reeves, par exemple.
L'astrophysicien.
L'astrophysicien qui va nous expliquer, regardez comme c'est merveilleux, regardez tout ce qu'il y a d'incompris encore à découvrir, et évidemment qu'il n'épuise pas notre imaginaire. C'est d'ailleurs un astrophysicien, mais j'aurais tendance à dire que c'est aussi un poète. Mmh. Et donc, c'est le principe, c'est que c'est pas antinomique, et que le scientifique antinomique avec l'émerveillement, c'est celui qui prétend tout connaître. De la même façon que le religieux, le dogme tue l'émerveillement, alors que la religion ne tue pas l'émerveillement, mais le dogme peut le tuer, parce qu'on prétend tout comprendre, tout connaître et tout épuiser.
Lisez, relisez le très très beau livre d'Hubert Reeves, Patience dans l'azur.
En général, les gens prennent l'avion, mais vous, c'est encore mieux, parce que vous avez votre télé, votre pendule et tout ce qu'il faut. C'est avec ça que vous pilotez votre maison ?
Hein ?
Ça marche vraiment ?
Arrête immédiatement de...
Comme ça, on va droit. Et là, on va à gauche.
Ça suffit.
Regardez des immeubles. Celui-ci est tellement près que je pourrais presque le toucher. Waouh ! C'est extraordinaire ! Vous devriez essayer, monsieur Fredriksen. Regardez, c'est le bus que je prends pour rentrer. J'habite par là. Hé ! Je vois même votre maison d'ici.
Doucement, arrête de gesticuler.
Oh. Ah,
le petit garçon très curieux dans là-haut des studios Pixar sorti en 2009, Brunenbeck. Vous publiez d'ailleurs Walt Disney Pédagogue hein, chez Mardaga. On n'a pas encore parlé hein, d'une condition essentielle à l'émerveillement, c'est la curiosité. La curiosité qui nous pousse à explorer l'inconnu et à faire de nouvelles découvertes.
Alors on a deux beaux témoignages. Hein. Là-haut, c'est un petit enfant qui cultive l'émerveillement chez un adulte, un grand-parent blasé. Et on a eu avec Richard Pierre tout à l'heure, le grand-parent qui ouvre les portes de l'émerveillement à son petit enfant. Donc, c'est aucune génération n'a le monopole de l'émerveillement. Ceux qui ont gardé ce chemin de la curiosité, c'est-à-dire qui sont ce plaisir étonné d'être au monde, supposent aussi qu'on a envie pas de comprendre tout. Et Camus le disait tellement mieux que moi, il disait « il faut aimer la vie, non pas parce qu'elle a un sens, mais pour qu'elle ait un sens. » Et dès qu'on se met à aimer la vie, à ce moment-là, effectivement, on commence à trouver des raisons de s'émerveiller, d'essayer de connaître sans vouloir tout comprendre. Et là, effectivement, ben, à la fois dans là-haut, on l'entend, ce petit garçon stimule son grand-père, et on l'entendait avec le message de Richard Pierre, ben, le grand-père peut aussi stimuler son petit enfant.
Et la curiosité est une émotion de l'apprentissage, mais aussi de la recherche scientifique. Mmh. Et moi, les grands chercheurs que je connais, je pense à Nicolas Gisin, qui est un grand chercheur en physique quantique, il continue à vouloir comprendre, mais il s'émerveille tout le temps. Et il dit, quand je découvre quelque chose, j'ai une émotion tellement forte, tellement belle, et en même temps, il y a tellement de choses encore qu'on ne comprend pas.
Et vous parliez de jugement tout à l'heure, Ilios Kotsou, la curiosité qui ne fait pas très bon ménage avec le jugement, ce jugement qui nous conforte dans nos certitudes et qui nous enferme.
Qui nous enferme et qui enferme les autres. D'ailleurs, il y a un petit proverbe africain qui dit, lorsque tu pointes du doigt quelqu'un, regarde bien les trois autres doigts qui sont tournés vers toi. Et donc à chaque fois qu'on juge, on s'enferme, on enferme, alors que la curiosité, elle nous donne envie d'explorer, de comprendre, de découvrir, d'en savoir plus.
Je vais noter ce proverbe précieusement. Allez, racontez-nous ce qui vous émerveille au quotidien et comment vous transmettez cet émerveillement à vos enfants, vos petits-enfants, neveux, nièces ou même à vos élèves. 01 45 24 7000, sans oublier le bouton réagir sur l'appli Radio France. On se retrouve juste après avoir écouté Joshua Haydn, qui interprète Étang l'Oiseoise, 10h49 sur Inter.
With a little bit of luck and a handful of courage, we will make it through the night and out to where the sun is, where the love is, manifesting with my mates. Bright faced and beaming, backseat in Benji's Mazda. The world is loud, but we sing louder. Pistol fingers through the window. My joy is a whistle, loud in its belief. After this, something good is
taught me how to win. Maybe the reason I ain't that good at swimming is 'cause I was born with wings. And the answer's right here in our hands. It always was. It's all down to us. And that much I trust.
Joshua Haydn interprété It Always Was.
Le mag de la vie quotidienne, Ali Rebéi sur France Inter.
Comment retrouver le goût de l'émerveillement dans notre quotidien? C'est notre thème ce matin en compagnie du psychopédagogue Bruno Humbeck et du psychologue Ilios Kotsou. Élise nous écrit « Chaque jour, je me conditionne à accueillir la beauté. Je suis médecin dans un service de soins palliatifs. Avant de rentrer dans la chambre de mes patients, je prends quelques secondes pour leur être pleinement disponible et m'émerveiller de leur sourire, de leur récit ou de tout ce qui peut arriver. » Françoise nous écrit « J'écoute votre émission avec attention, avec une question. » Comment faire quand on habite en hyper-centre-ville? On sait bien que la nature est très ressourçante en elle-même. Comment faire sans nature, sans espace vert à côté et sans voiture pour s'échapper? Bruno Humbeck.
Alors, Hubert Reeves le disait beaucoup mieux que moi. Il disait la fleur contient un univers, donc une petite fleur simplement. Mais il faut se débarrasser de deux choses. Le souci de posséder et le désir de dominer, qui sont complètement antinomiques avec l'émerveillement. Si vous regardez une œuvre en disant « Tiens, cette œuvre vaut de l'argent, je pourrais la posséder, la revendre », vous n'allez jamais vous émerveiller. Même chose pour un terrain. On ne va pas s'émerveiller devant un terrain acheté. Et donc, il faut pouvoir se débarrasser du souci de posséder et de l'envie de dominer aussi. Mmh. On fait partie de la nature. On participe à sa beauté, mais par exemple, si vous arrachez la fleur parce que vous voulez simplement la déposer quelque part ailleurs que dans l'endroit où elle, vous allez diminuer votre capacité de s'émerveiller.
Mais comment s'émerveiller quand on habite dans un endroit sinistre, quand on est loin de la nature, par exemple?
J'ai eu l'expérience de Berlin. Berlin est une ville dans laquelle il y a des endroits particulièrement sinistres. Et je regardais par la fenêtre, et effectivement, la fenêtre étant une ouverture vers l'émerveillement possible, je cherchais ce qui pouvait mobiliser l'émerveillement. Il y avait un arbre. Et cet arbre isolé, c'est un petit peu comme une fleur ou une plante qui pousse entre deux pierres ou entre deux dalles. Ça peut effectivement déjà stimuler l'émerveillement. Pour autant, qu'on jette non pas seulement un regard émerveillé, mais un regard poétique. Il faut se donner les moyens de réécrire le monde. Relire les poètes aussi, hein, c'est à ça qu'ils servent. Hein. Les poètes écrivent une forme de littérature inutile. On ne va rien apprendre en lisant un poète. Et c'est grâce à ça qu'ils sont poétiques, parce qu'ils vont nous ouvrir à un autre regard vers le monde.
Et Ilios Kotsou, dans votre livre « La magie des petits riens », j'ai retenu cette phrase du poète Christian Bobin. « Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, et ne rien prévoir sinon l'inattendu. »
Rien attendre sinon l'inattendu. Oui, c'est très juste. Et donc, cesser de prendre les choses pour acquis. C'est vraiment une leçon de l'émerveillement. Si rien ne nous est dû, alors tout est un cadeau. Si tout nous est dû, alors on s'attend à tout. Plus rien n'est un cadeau. On peut le voir dans tout. J'habite dans une ville, c'est incroyable. Le système des égouts est émerveillant. Comment est-ce qu'on sait que ces égouts, c'est cette fourmilière de la ville, notre corps humain? Tous les matins, on se réveille, et pour le moment, on est encore vivant. L'incroyable fonctionnement d'une main, d'un corps, d'un système respiratoire, et le fait de pouvoir regarder cette complexité, cette beauté de tout ce qui continue à fonctionner, si on cesse de prendre des choses pour acquis, alors la gratitude nourrit l'émerveillement.
Et nous accueillons Colombe. Bonjour Colombe.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Je vous remercie pour ce thème qui m'a émerveillée.
Merci.
Et j'ai pris le téléphone pour m'émerveiller avec vous.
Merci. Alors, vous êtes ancienne enseignante, c'est ça ?
Oui, alors ça fait 2 ans hein, que je suis retraitée de l'éducation nationale dans le premier degré. Je tiens à le dire parce que les jeunes enfants gardent encore très présents leur capacité d'émerveillement. Donc je voulais rendre hommage quand même à ma mère qui a développé chez moi cette capacité parce que je pense que ça se transmet et ma sœur a la même capacité d'émerveillement. Et j'ai essayé moi de... Je pense que j'ai choisi ce métier pour faire partager cette capacité à mes élèves. Et donc je suis une hyper-citadine, hein, et je rebondis sur ce que vient de dire votre invité. Même en milieu hyper-urbain, on peut s'émerveiller.
Je suis d'accord.
Et j'ai une petite anecdote par rapport à la neige, le peu de neige qui reste en ville, hein, à Paris, notamment dans la très proche couronne. Et j'ai le dernier émerveillement de mes élèves qui me reste à l'esprit. C'est un jour, je crois, le dernier jour de neige, un peu important sur la région parisienne où on était en plein cours et d'un seul coup un élève tourne la tête vers la fenêtre, voit un flocon et ça gagne et tout le monde court se mettre à la fenêtre, donc déjà leur laisser l'envie et la possibilité de courir jusqu'à la vitre. Et puis, oh maîtresse, c'est merveilleux. Et il y en avait qui n'avaient jamais vu la neige à Paris. Et donc j'ai dit, bah allez, on descend. Donc on est descendu, je les ai laissés toucher la neige, entendre le bruit des pas dans la neige qui n'avait pas immaculé. Alors ils étaient étonnés, ça craquait. On a été chercher des loupes, ils ont regardé les cristaux. Et de là, après, il y a eu un projet artistique. Enfin, ils avaient envie de dessiner la neige et c'est cette capacité-là que, au cours de ma carrière, voilà, j'ai essayé de sauter sur l'occasion d'émerveillement pour apprendre des choses.
Je crois, voilà. Colombe, que vos élèves ont eu beaucoup de chance de vous avoir comme institutrice et nos invités acquiescent dans le studio, Bruno Humbeck.
Alors, c'est effectivement, on appelait avant l'école maternelle un jardin d'enfants. Oui. Et on aurait dû garder le nom. C'était joli, un jardin d'enfants, parce qu'on les laisse pousser comme des fleurs. Et effectivement, avec cette capacité d'émerveillement, Victor Hugo le disait, hein, l'enseignant, c'est un jardinier de l'esprit humain. Ça permet certainement de cultiver quelque chose qui existe déjà. On ne va pas créer l'émerveillement. Et bon, on est une très très bonne enseignante dans un jardin d'enfants quand on cultive l'émerveillement qui existe chez l'enfant.
Merci beaucoup Colombe de nous avoir appelé. 4 piliers pour bien s'émerveiller, je les cite parce qu'on arrive au terme de cette émission. Bruno Humbeck, la lenteur, la douceur, la sérénité et la simplicité.
On ne s'émerveille pas dans la brutalité, on ne s'émerveille pas en vitesse et il faut se donner le temps effectivement de s'émerveiller.
Et on termine avec Caroline, il nous reste une poignée de secondes. Caroline, est-ce qu'on vous a, Caroline ?
Oui. Bonjour, je vous entends
bonjour,
très bien.
On vous bonjour. Entend bonjour.
Alors, ma question va être très simple et courte. J'aimerais savoir s'il y a une frontière entre l'émerveillement et la fascination.
Ah, très bonne question.
C'est très bien, mais il faudrait une heure pour répondre à ça.
On en fera une autre émission.
mais effectivement, la fascination n'est pas nécessaire à l'émerveillement. Elle peut accompagner l'émerveillement, mais n'est pas obligée d'être face à quelque chose qui nous pétrifie. C'est la différence entre le sublime et le bucolique. Le bucolique, c'est quelque chose de doux qui va nous donner le bonheur serein. Le sublime, c'est quelque chose de fascinant qui va nous donner parfois un bonheur intense. Mais le bonheur serein est tout aussi important que le bonheur intense.
Merci Caroline. Juste une poignée de secondes, en cette période de fête, comment créer du merveilleux en famille, loin des écrans qui font écran à l'émerveillement ?
Alors en s'émerveillant collectivement et en n'obligeant personne à s'émerveiller de la même chose, mais en essayant de le faire le plus possible ensemble, allez voir le feu d'artifice, mais surtout sans chercher à le filmer, vous ne ferez rien de votre film.
Ilias Kotsou ?
Si tu veux enseigner l'émerveillement à ton enfant, ne lui prêche pas l'émerveillement, tu l'apprendras à prêcher. La seule chose que tu peux faire, c'est émerveille-toi avec lui et puis partage l'émerveillement, il sera contagieux.
Merci beaucoup à toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont appelés ce matin. Merci beaucoup Ilias Kotsou, La sagesse des petits riens, c'est publié chez Robert Laffont. Merci Bruno Humbeck, Éduquer à l'émerveillement, c'est publié chez Racine. N'hésitez pas à podcaster, à partager cette émission sur l'appli Radio France. Demain avec l'Obs, comment prendre les bonnes décision dans tous les pans de sa vie. Quelle est votre boussole pour prendre des décisions ? Êtes-vous un abonné aux mauvaises décisions ? Ou au contraire, avez-vous la baraka en prenant souvent les bonnes ? N'hésitez pas à appeler le standard demain dès 9h30 au 01 45 24 7000.